Et oui, on débute avec Catherine Dutube. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Aux États-Unis, on appelle cela un comeback, mais en bon français, c'est un retour en force que signe Joe Biden dans la course à l'investiture démocrate. L'ancien bras droit de Barack Obama enchaîne les victoires en ce Super Tuesday, ce super mardi où plusieurs millions d'Américains sont appelés à désigner celui qui affrontera Donald Trump à la prochaine présidentielle. Mais attention, Bernie Sanders, le candidat le plus à gauche, n'a pas dit son dernier mot dans des états clés, Texas et Californie, où nous serons dans un instant.
Et puis à la une en France, la réforme des retraites et les motions de censure de la droite et de la gauche rejetée. Cette nuit à l'Assemblée, le projet de réforme du gouvernement a donc été adopté en première lecture avec le 49-3.
L'occasion d'une nouvelle passe d'armes entre la droite, les députés insoumis et Édouard Philippe, vous l'entendrez. 4 morts désormais en France et 212 personnes touchées par le nouveau coronavirus. Un virus qui est sans doute là pour des mois, prévient Emmanuel Macron. Il réquisitionne tous les stocks de masques de protection. L'OMS craint, elle, une pénurie. Inquiétude sanitaire et économique, nous ferons un point également dans ce journal sur le manque à gagner lié au report ou à l'annulation en série de spectacles.
Et puis dans une dizaine de minutes, Catherine, la question du jour, peut-on parler de déclassement des enseignants? Je poserai la question à un chercheur associé au Centre d'Histoire Sociale du XXe siècle, Laurent Fragerman.
Il y a quelques jours encore, il était distancé par Bernie Sanders dans les sondages. Mais la réalité des urnes et des votes par correspondance place désormais Joe Biden en tête de la primaire démocrate américaine dans la majorité des États appelés à voter pour le Super Tuesday, un vote crucial d'où sortiront près de 40% des délégués démocrates, ceux qui choisiront cet été celle, ou plutôt celui tel que c'est parti, celui qui affrontera Donald Trump à la présidentielle de novembre prochain. Bonjour Grégory Phillips.
Bonjour Catherine.
Vous êtes le correspondant de France Culture aux États-Unis. Joe Biden, l'ancien vice-président de Barack Obama au programme modéré, semble donc avoir fait mouche auprès de l'électorat noir et des suburbs, des banlieues. Joe Biden renforcé aussi par le ralliement de 3 candidats démocrates centristes, Grégory.
Oui, et au moment où on se parle, Joe Biden l'emporte dans 8 États contre 3 pour son adversaire Bernie Sanders. L'ancien vice-président d'Obama est en tête par exemple en Virginie, en Caroline du Nord, dans le Tennessee. Et là, on voit effectivement que Biden enregistre de très bons résultats auprès de l'électorat afro-américain. Biden également en tête dans le Massachusetts avec une contre-performance notable de la sénatrice locale Elizabeth Warren. Pour elle, la course est quasi terminée. Puis Biden vainqueur aussi dans le Minnesota, cet État du Midwest dont la sénatrice Amy Klobuchar avait interrompu sa campagne pour rejoindre l'ancien vice-président. Les ralliements de ces dernières heures, avec aussi celui de Pete Buttigieg, ont visiblement donné un nouveau souffle à la campagne de Biden, qui tout à l'heure, depuis Los Angeles, se félicitait. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle cette journée un super mardi.
Et Joe Biden, face à Joe Biden, Bernie Sanders, lui, n'a pas dit son dernier mot. Il l'emporte pour l'instant dans son fief du Vermont, dans le Colorado et dans l'Utah. Il est également bien parti au Texas et en Californie. Et ces deux États, Grégory, fournissent le plus de délégués pour la convention démocrate qui intronisera le champion cet été.
Oui, et évidemment, on va surveiller de très près ce qui se passe en ce moment en Californie, parce que vous savez, c'est le plus gros pourvoyeur en termes de délégués, 415 au total, et sur environ 30% des bulletins dépouillés, eh bien c'est Bernie Sanders qui est assez largement en tête pour l'instant. Résultat provisoire, on a pu constater ces derniers jours ici à San Francisco et dans toute la baie un véritable enthousiasme pour le programme du plus à gauche des candidats, qui est donc en tête en Californie. Résultat provisoire, attention, au Texas, pas non plus de résultat définitif, mais là c'est Biden qui est en avance. Il y a 228 délégués à se partager. Donc pour résumer, Biden l'emporte dans plus d'États que Sanders, mais ce sera peut-être serré en termes de nombre de délégués à l'issue de ce super mardi, qui ne va pas forcément désigner un vainqueur évident. En revanche, il est presque certain, Catherine, que ce Super Tuesday aura été fatal à Elizabeth Warren, dont on parlait tout à l'heure, ainsi qu'au milliardaire Michael Bloomberg, qui malgré les plus de 500 millions de dollars dépensés en publicité est quasi inexistant aujourd'hui.
Grégory Phillips, envoyé spécial de France Culture en Californie. Merci pour ces explications. J'ajoute que Michael Bloomberg, dont vous parliez, l'ancien maire de New York, le candidat milliardaire, doit faire un point sur sa campagne aujourd'hui aux États-Unis.
7h05 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu. Nuit de vote encore, mais cette fois en France. À l'Assemblée nationale, la réforme des retraites a été adoptée en première lecture selon la procédure du 49-3.
L'arme constitutionnelle dégainée samedi par le gouvernement, suscitant une une levée de boucliers à droite et à gauche, deux motions de censure déposées, mais avec 148 voix pour la motion de droite et 91 pour celle de la gauche, bien loin de la majorité absolue à 289 voix. Les oppositions ont été mises sans surprise en échec cette nuit face à la majorité et au 49-3. C'est un fiasco parlementaire sans précédent pour le chef de file des députés LR Damien Abad, qui continue d'affirmer que le projet de loi fera des Français les plus grands perdants.
Le devoir de la droite, c'est de censurer un gouvernement faussement réformateur qui est en train de se fracasser sur la réalité d'une réforme ratée. L'histoire retiendra que vous avez appauvri les retraités français et que vous êtes passé à côté d'une gigantesque opportunité d'assurer l'équilibre de notre système de retraite et de le rendre plus juste.
Après le LR Damien Abad, côté insoumis, le député François Ruffin a concentré, lui, ses attaques sur l'impopularité de la réforme et de la majorité.
Vous atteignez des abysses d'impopularité et c'est avec cette légitimité zéro, c'est avec cette trouille des électeurs que vous imposez de revoir le contrat social entre les Français qui vaut depuis l'après-guerre. C'est un jeu dangereux auquel vous jouez. C'est un jeu dangereux pour le pays, c'est un jeu dangereux pour la démocratie.
Pas de quoi désarçonner le Premier ministre Édouard Philippe qui a défendu sa réforme hier à la tribune.
Le conservatisme est une posture parfaitement autorisée. Mais ce conservatisme et ces postures sont très souvent des impostures. Car sous couvert d'une soi-disant solidarité, elle consiste à préserver des avantages devenus indus au détriment des autres. Ceux qui défendent le statu quo racontent bien trop souvent des calembres d'aine. Ils se payent de mots sur le dos de ceux qui sont les moins bien traités par le système actuel. Les agriculteurs, les artisans, les commerçants qui travaillent très dur pour des pensions de misère, les femmes qui travaillent dur pour des retraites qui sont inférieures à celles des hommes, et nos enfants dont on attend qu'ils payent le moment venu et de bon cœur pour notre impéritie.
Le Premier ministre Édouard Philippe hier à l'Assemblée, reprise des débats aujourd'hui sur l'autre volet de la réforme des retraites, le projet de loi organique. C'est lui qui impose l'équilibre financier du système. 5 articles et 1800 amendements à examiner. Les débats s'annoncent une fois de plus tendus. Le gouvernement, lui, compte toujours adopter définitivement sa réforme d'ici l'été. Un nouveau conseil de défense se tient ce matin à l'Élysée sur le nouveau coronavirus qui a touché 212 personnes en France, dont 4 cas mortel. La crise va durer des semaines, sans doute des mois, prévient Emmanuel Macron, mais nous sommes prêts, a déclaré hier le chef de l'État, et de réquisitionner les stocks de masques de protection. Le décret est paru cette nuit au journal officiel. Des masques, objets de toutes les convoitises. 10 000 exemplaires ont été volés dans des hôpitaux à Paris et à Marseille. Et l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, alerte sur un risque de pénurie qui met en danger la riposte mondiale à l'épidémie. Annabelle Grelier.
Environ 50% des masques sont fabriqués en Chine. Avec l'épidémie, les usines tournent au ralenti. Pourtant, l'ambassadeur de Chine en France affirme que plus de 54 millions de masques y sont encore produits chaque jour. Ce qui reste de toute façon insuffisant pour répondre à la demande mondiale qui ne cesse d'augmenter. En France, 4 usines produisent des masques de protection FFP2. Olivier Bogilo, le président de la Fédération des industries de santé, affirme qu'elles tournent à plein régime.
En France, on a des usines qui produisent des masques. Je peux vous dire qu'ils font un travail formidable. Ils travaillent 24 heures sur 24. J'ai eu un des dirigeants d'usine hier qui produit des masques, qui était très fatigué, je l'appelais très tard, et il me disait qu'il travaillait 24 heures sur 24 pour fournir la demande. Après, étant donné qu'on est sur un stock fini de masques, bien vérifier à qui on les donne pour que ce soit sur les personnes qui en ont le plus besoin. Aujourd'hui, tout le monde n'a pas besoin d'un masque. Vous et moi, ça va bien, on n'en a pas besoin. Les professionnels de santé en ont besoin. Et les personnes qui sont amenées à être en contact de personnes fragiles en ont besoin. Peut-être pas tout le monde, quoi.
Pour en contrôler la distribution aux personnes les plus à risque, le président Macron a annoncé hier la réquisition de toute la production. Le pays dispose par ailleurs d'un stock d'État de 145 millions de masques chirurgicaux. Pour protéger les médecins de ville, le ministre de la Santé a annoncé que 10 millions de masques allaient être répartis dans les pharmacies de France. Il s'ajoute à 5 millions de masques déjà distribués dans les agences régionales de santé et des EHPAD pour les personnes âgées. Enfin, pour éviter la spéculation, la Direction générale de la répression des fraudes va enquêter sur les fortes augmentations des prix de vente déjà constatées en France, des gels hydroalcooliques et des masques de protection. Un décret d'encadrement des prix pourrait être prochainement publié.
Et au-delà de l'aspect sanitaire, l'épidémie inquiète également sur le plan économique, notamment chez les entrepreneurs de spectacles. Samedi, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annulé les rassemblements de plus de 5000 personnes en milieu confiné, ce qui peut concerner une centaine de salles de spectacle partout en France. De quoi compliquer les affaires d'un secteur déjà en difficulté, selon Malika Seguino, qui dirige le PRODIS, le syndicat national du spectacle musical et de variété.
Je suis très inquiète parce que ça s'ajoute aux secousses violentes qu'ont déjà subi ce secteur, composé majoritairement de très petites entreprises. Pour 80% de ce secteur, ce sont des TPE, donc ce sont donc des entreprises fragiles économiquement. Nous avons eu les attentats du Bataclan, il a fallu se relever très vite, mais ça a été quand même très compliqué pour un certain nombre d'entre elles. Et il y a eu plus récemment et tout au long de l'année dernière les Gilets jaunes, et encore plus récemment la période des grèves de fin d'année. Donc nous sortions à peine de cette séquence, avec déjà un niveau assez ralenti de vente parce que c'était complètement conforme au climat social. Et là, on se prend cette décision depuis samedi avec une incertitude autour, une espèce d'inquiétude générale, parce que l'annonce qui a été faite, le climat dans lequel on est en ce moment, a forcément un impact immédiat sur les ventes de billets de spectacle, vous vous en doutez. Très tôt, en fait, ce week-end, on a pu constater une baisse par rapport à la même date il y a un an. Samedi, on nous indiquait que suite à l'annonce, c'était moins 25%. Depuis le début de la semaine, c'est moins 40%. Donc c'est effectivement immédiat et brutal.
Malika Seguino, directrice générale du PRODIS, le syndicat national du spectacle musical et de variété, elle répondait à Thomas Larabie. Comment trouver une réponse unanime à 27 face à la crise migratoire provoquée par la Turquie? La question est au menu des ministres européens de l'Intérieur cet après-midi à Bruxelles, alors que la situation humanitaire se détériore en Grèce notamment. Reportage à suivre dans le journal de 7h30. Le temps de ce mercredi 4 mars, couvert voire pluvieux, davantage de soleil en Provence-Alpes, Côte d'Azur et en Corse. Les températures sont comprises ce matin entre 2 et 7 degrés de la Bretagne jusqu'aux Pyrénées et près de la Méditerranée. Un peu plus froid dans le reste du pays, comptez de moins 1 à 4 degrés. Au meilleur de la journée, il fera entre 12 et 17 dans la moitié ouest du pays. Comptez de 7 à 11 cet après-midi sur la moitié est.